Des grands champions connaissent précisément leur carrière, leurs exploits, leurs records, mais pas vraiment l'autre côté de leur médaille d'or. Et bien souvent, c'est les petites histoires derrière les athlètes qui leur permettent d'écrire leur grande histoire. Dans le morceau Namek, le rappeur Dinos dit « Roland Garros ou le casino, je touche le jackpot en 3-7 ». Notre invitée du jour, elle, est plus terre battue que machine à sous. Champion épisode 9 avec la tenniswoman Ali Zelim.
Comment est-il ?
Un champion du monde.
Il est champion olympique.
Champion, mon frère.
Question pour un.
Champion du monde.
We are the champions.
Ce qui m'intéresse, ce sont les super champions.
Salut Alizé, alors est-ce que on peut se tutoyer déjà ?
Ça sera
plus simple. Ouais. Ok, c'est plus simple. On ne sait jamais, hein. Faut mieux demander. Alors, comment t'es arrivé ? Donc toi, tu fais du tennis. Comment t'es arrivé à faire du tennis ? Pourquoi t'as choisi le tennis ?
Parce que mes parents jouent au tennis, tout simplement. Et donc c'était...
Ah, c'est une famille de
sportifs ?
Oui,
c'est une famille. Donc je pense que t'essayes naturellement ce que font tes parents au début, et après tu fais le tri. Et le tri s'est fait dans le sens du tennis pour moi, parce que j'ai fait plein de choses après. Et en fait, arrivé au collège où il faut choisir parce qu'on a moins de temps. C'était ce que je préférais. Alors c'était ce que je préférais en fait. Et puis j'avais commencé les tournois et j'avais commencé à gagner quelques tournois, donc je pense que c'était très naturel.
C'était là où
tu étais
le plus doué.
Voilà, ouais, je pense.
Est-ce que finalement c'était tes parents qui t'ont poussé ou...
Non, ils m'ont pas poussé. Alors c'est vraiment venu de moi, de A à Z.
Eux, ils voulaient pas du tout que tu sois professionnel, quoi.
C'est presque l'inverse, parce qu'en fait, mes parents viennent d'un milieu pas spécialement sportif, du moins pas sportif professionnel. Donc le sport, c'est pas un métier. Pour eux, c'est faire des études qu'il faut faire après le bac. Donc c'était presque l'inverse, on va dire, du cursus classique, où il fallait presque je convainque mes parents que c'était ok que je joue au tennis, pour les rassurer en fait.
Ouais, parce que toi, enfin, t'as quand même bon niveau d'études, quoi. T'as même continué longtemps, et c'est justement même toi qui a dit s'il vous plaît, mettez-moi à la fac plutôt qu'en prépa, parce que je peux avoir du temps comme ça pour jouer.
J'essayais de trouver un compromis, en fait, pour que tout le monde soit content, tout simplement, parce que je pense que ça rassurait mes parents de savoir que je faisais une licence, même si c'était pas les plus hautes études qu'ils auraient espérées, parce qu'on avait encore des clichés comme ça en tête, les bonnes études, c'est la prépa, c'est médecine, c'est faire ingénieur. Et donc, je pense que ça les rassurait de savoir que j'avais cette porte de sortie après, puisque j'avais trouvé un deal pour entrer à HEC et sauter la prépa grâce à cette licence.
Ah, pas mal.
Donc, effectivement, c'était une chance, et ma sœur et mon frère qui avaient fait prépa étaient dégoûtés, parce qu'ils disaient... C'est dégueulasse, elle va faire la fac d'anglais et en fait elle va pouvoir rentrer à HEC comme ça sans faire les concours. Donc ils ont accès. Mes parents étaient très contents que je fasse ça parce que c'était effectivement une grande chance. Et donc ça les rassurait, ça leur donnait ça me donnait une vision pour l'avenir, cette idée que je puisse avoir un métier, que je puisse gagner ma vie et que c'était pas trop risqué de se lancer dans le tennis.
Moi je voulais juste commencer pour expliquer ton livre. Déjà, il a un titre super classe. Hein. On pourrait dire, on dirait Montesquieu un peu. L'éloge, l'éloge de l'inconditionnel, ça s'appelle. Trop classe. Et c'est surtout le sous-titre, en fait, qui m'a fait tilter. C'est témoignage d'une zèbre sur le court. Mm. Moi, bêtement, j'ai cru que zèbre, c'était juste un
l'animal.
Terme pour dire, l'animal, tu vois, qui court beaucoup. En fait, ça a rien à voir du tout. Du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est zèbre ?
Parce que moi, alors, zèbre est un terme qui a été inventé par la psychologue Jeanne Siofachin, dont je parle dans le livre. Pour désigner les surdoués ou au potentiel, ils ont plein d'appellations, HP, HPI, et que le terme soit moins lourd à porter en fait.
Pourquoi zèbre ?
C'est un peu technique. Il faudrait vraiment que je prenne bien son explication. Non, c'est que les zèbres ont tous des rayures différentes. C'est le seul animal qui a besoin des autres, mais qui vit quand même reclus, un peu seul dans la savane. Voilà, elle explique mieux que moi.
C'est un parallèle en fait entre les hauts potentiels et les zèbres.
Exactement, ouais.
Ah. Voilà. Ok, je savais pas. Et alors, qu'est-ce que ça change concrètement quand t'es une petite enfant zèbre ? Est-ce que c'est juste que t'es meilleure en cours ou que émotionnellement ça peut être plus compliqué ou que, je sais pas, t'es hyperactive, j'en sais rien, je sais pas.
Moi, à la base, la raison pour laquelle on m'a fait tester, c'est que j'avais des facilités à l'école et je m'ennuyais et j'allais peut-être un peu plus vite que les autres. Mais il y a aussi tout le côté émotionnel, effectivement. Il n'y a pas que avoir des facilités à l'école, comme le cliché pourrait laisser penser. Mmh. Et c'est pour ça qu'on aime bien ne pas trop dire surdoué, parce que ça donne l'idée de quelque chose en plus, mais c'est pas forcément quelque chose en plus, c'est juste quelque chose de différent. C'est un fonctionnement qui est différent et qui vient avec plein d'autres facettes de fonctionnement cognitif et de personnalité. Effectivement, une très grande hypersensibilité, une gestion émotionnelle parfois un peu plus, un petit peu plus difficile à avoir. Et
c'est pour une tennis woman, c'est parce que c'est quand même tout dans la tête et l'émotion, quoi. C'est pas compliqué.
Si, c'est à double tranchant. Ça peut te donner beaucoup de force et à la fois ça peut te faire galérer dans beaucoup de domaines. À la fois, je pense que ça m'a aidé à justement aller vite, on va dire, aussi au tennis. Comme je disais, je m'entraînais pas forcément beaucoup, j'allais aussi à l'école et à donc garder le cap avec les autres filles, même si je m'entraînais moins et même si j'avais cette double vie. Mais après, quand t'arrives effectivement à un certain niveau, on rentre dans cette gestion des émotions beaucoup plus exigeante finalement qu'à un plus petit niveau ou quand t'es jeune. Là, effectivement, ça m'a posé beaucoup de problèmes. C'était un challenge permanent. C'est toujours un challenge permanent pour moi quand je suis sur un cours de tennis parce que j'ai du mal à arrêter ma tête, j'ai du mal à rester concentrée, j'ai du mal à fermer les écouteurs et à couper mes sens de tout l'environnement et de tout ce qui se passe autour et qui va me faire sortir pendant un point ou entre les points ou juste avant le départ d'un point et me faire partir dans d'autres espaces-temps qui n'ont rien à voir et me faire faire des théories qui n'ont aucun intérêt sur, tout et n'importe quoi.
Alors, j'ai dit que très jeune, tu étais passionné par Arthur Rimbaud et que tu as voulu écrire des grands poèmes, notamment à un certain Quentin, qui, j'espère, s'il nous écoute, sera ravi. C'est quoi cette histoire?
Tu sais pas, j'ai peut-être changé des prénoms.
Ah oui, tu crois que t'as changé des prénoms?
En plus, il y en a que j'ai changé, il y en a que je n'ai pas changé, surprise. Non, mais en fait, c'est juste, c'était pour la petite anecdote rigolote, et justement, j'essayais de trouver des épisodes dans mon enfance qui illustraient un petit peu le décalage que je pouvais avoir d'enfant au potentiel, et effectivement, ma mère m'avait acheté ce livre qui était une biographie pour enfants d'Arthur Rimbaud, et j'étais passionnée par ce livre, et je le lisais en boucle, je voulais plus rien lire d'autre, je voulais plus lire les livres pour l'école, parce que j'adorais son histoire et cette personne, Arthur Rimbaud, me fascinait. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, à Noël dernier, j'ai commandé une énorme biographie d'Arthur Rimbaud. C'est écrit en tout petit comme ça. Je ne sais pas combien de pages, je ne l'ai même pas lu.
T'es fan de poésie du coup? Ou
non,
juste de Arthur Rimbaud?
Vraiment lui, mais en fait, j'ai cette tendance quand je trouve une personne, j'ai envie de l'admirer au plus haut degré parce que j'adore le sentiment d'admiration, tu vois.
Ah donc, ouais?
Je trouve ça agréable quand...
D'être ultra fan, quoi?
C'est pas ultra fan, c'est admirer, c'est agréable. Je sais pas, ça me remplit d'un sentiment agréable.
Et il y en a d'autres que Arthur Rimbaud ou c'est genre...
Plus tard, oui. Après, ça a été Amélie Nothomb depuis mon adolescence et jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai une énorme admiration pour cette...
Tu lis beaucoup, du coup?
Oui et non. Parce que justement, j'ai eu ce trait de caractère-là. Quand je suis fan de quelqu'un, c'est comme si je vais tellement être fidèle à cette personne que je me concentre uniquement sur cette personne et je m'interdis presque de lire autre chose. Et je préfère relire en boucle la même personne qu'aller voir ailleurs. Et j'ai fait la même chose avec Amélie Nothomb pendant presque 10 ans.
Tu lui as envoyé des lettres ou pas? Parce que tu sais, elle est hyper proche de chez...
Ah ouais, une lettre, ouais.
Elle t'a répondu parce qu'elle entretient genre des relations épistolaires et tout.
Oui, elle m'a répondu. Oui.
Énorme.
Ouais.
Et c'était quoi, parce qu'elle se rappelle de tout le monde, au petit journal et dans le quotidien, on allait tout le temps voir au salon du livre, et il y a des queues entières, il y a genre 150 personnes qui viennent dédicacer, et elle se rappelle de tout le monde, elle picole du champagne toute la journée, elle se rappelle de tout le monde, elle demande des nouvelles de l'oncle, de la tante, elle est incroyable.
Elle est incroyable,
Donc, du coup, vous écrivez avec Amélie?
Non, en fait, je suis tellement fascinée par cette personne que finalement je me suis dit j'ai pas trop envie de lui écrire parce que j'ai pas envie de casser mon... Enfin c'est pas le casser mais j'adore garder cette fascination un peu imaginaire et je me suis dit c'est agréable comme ça et voilà. Okay. Tout simplement. Donc oui, on s'est échangé une lettre et j'ai pas renouvelé mais je suis sûre que je lui réécrirai un jour ou que j'espère que je la recroiserai.
Ah c'est trop drôle. Ok, on revient au tennis. Est-ce qu'il y a un moment... Ça peut être qui fait le déclic où tu te dis je suis meilleur que les autres et là je peux devenir pro et accéder à mon rêve. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça? Ça peut être...
Alors moi pas du tout parce que je pense que ça fait peut-être partie des traits de haut potentiel mais j'étais tellement dans le doute permanent et dans la remise en question que je me sentais pas légitime en fait. Je me suis pas sentie légitime de dire que j'étais joueuse de tennis jusqu'à vraiment mes peut-être 22 ans.
Ah ouais?
Ouais, c'était très bizarre.
Mais
c'était...
pourquoi?
Bah, parce que je venais d'une culture et d'une éducation où le tennis c'est pas un métier, parce que j'avais tellement l'impression que il fallait être absolument dans les 100 pour avoir cette étiquette de joueur de tennis, et que tant que j'y étais pas, j'étais nulle, et je me blâmais tout le temps. Ah. Et donc, c'est comme si, ouais, j'assumais pas pleinement, et puis surtout, j'avais du mal à me défaire de cette idée des études, et que c'était pas un vrai métier, ou que, pour endosser ce métier, il fallait être très très fort ou se sentir très très fort.
Et
je
ne
me sentais pas, voilà, j'étais exigeante envers moi-même et je me sentais pas légitime. Donc non, ça s'est fait très progressivement pour moi. Et on va dire que je me cachais derrière, non, je joue au tennis comme ça, je vais juste faire des tournois pour voir. Et puis je vais quand même voyager juste pour voir. Et en fait, j'assumais pas, quoi.
Ah ouais, c'est trop long.
J'assumais pas. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je rentre à l'académie chez Patrick Mouratoglou, où là, c'est un environnement, ou à la fédération, même l'année d'avant, quand même, on va dire. Je suis rentrée à la fédération, voilà, à l'âge de. Non, tu vois, c'était peut-être un peu plus tôt, j'avais 20-21 ans. Et
ouais, t'as commencé à te dire bon.
Ouais. Mais bah, j'avais un tampon qui me disait, j'ai été prise à la fédération, j'ai été sélectionnée, donc je suis quand même pas si nulle que ça. Et donc peut-être je peux commencer à dire ouais, je suis joueuse de tennis. Mais c'était dur. Quand j'arrivais à la douane, il fallait écrire métier. Pendant très longtemps, j'écrivais student.
Ah ouais.
Alors j'arrivais avec mon sac de tennis pour faire un tournoi.
Et c'est quoi le meilleur souvenir, si tu dois garder un souvenir de toute ta carrière?
Bah, mon souvenir le plus fort, quand même, ça reste, je pense, mon match contre Serena sur centrale de Roland. Ouais. Après, j'en ai d'autres qui sont très très forts parce qu'ils ont été très intenses en émotion et que des scores
perso,
à rebondissement, oui, voilà, un dépassement de soi très très intense. Après, pour les yeux de la petite fille comme ça qui découvre et qui se dit, oh, c'est incroyable, et qui, voilà. C'est le summum de mon sport.
Ouais. T'étais fan de Serena avant de devenir pro ou...
Bah, je l'admirais beaucoup. Après, j'étais pas fan, fanatique comme avec Emilie Nothomb. Ouais. Mais oui, je l'admirais. Enfin, c'est impossible de pas l'admirer quand tu fais du tennis.
Et c'était qui, justement, tes idoles plus jeunes?
C'était Martina Hingis.
Ah yes,
Martina Hingis. Que j'ai rencontrée après, avec qui je jouais régulièrement.
Ouais, c'était
Martina Hingis. J'adorais. Bah, je m'identifiais un peu plus à son jeu. C'est-à-dire que Serena, je l'admirais, mais je pouvais pas vraiment m'identifier. Elle est tellement puissante, c'est tellement loin de mon gabarit et de mon style de jeu que je m'identifiais plus à quelqu'un comme Martina.
Du coup, tu me disais que tu as eu jusqu'à longtemps, en fait, une vie d'ado normale, quoi. Tu sortais un peu ou tu pas tant que ça, ou tu faisais un peu la fête?
Je voyais mes copains. Alors, je voyais beaucoup mes copains de mon club de tennis, mais non, pas vraiment la fête. J'ai toujours été plus one-on-one avec une personne, avec une relation très très forte où tu te vois beaucoup, où tu parles jusqu'à 3h du matin dans le lit et t'échanges beaucoup, que bande de potes à boire des coups. Ouais.
Et donc t'as jamais eu l'impression de dire je passe à côté, je sais pas, d'un truc plus jeune? Souvent quand je parle avec des sportifs, ils me disent bah ouais, quand t'as 15 ans, c'est un peu compliqué de voir tous tes potes qui te disent ouais, samedi, gros stuff. Puis toi, tu peux pas y aller parce que t'as le dimanche matin entraînement à 8h. Toi, t'as pas eu trop ce
truc-là. Je l'ai pas beaucoup vécu parce que je m'entraînais pas assez sérieusement à cette période-là. Donc, j'ai quand même pas du tout été sevrée en termes de vie sociale, et ça a été beaucoup plus tard pour moi. Donc, ça a été vraiment à l'âge de 20 ans que là, je me suis dit ok, là, je peux plus faire n'importe quoi parce que de toute façon, ça va avec la quantité de travail parce que t'es tellement fatigué que tu peux pas de toute façon et que tu vas pas assumer le lendemain si tu sors. Donc, ça m'est arrivé plus tard, et on va dire que ça venait tellement de moi, cette envie de jouer, que c'était pas du tout comme c'était pas une souffrance. Et j'avais eu une bonne dose avant, donc ça allait, tu vois.
Ouais, t'avais pas de. Aucun sentiment de sacrifice, en fait, quoi.
Un petit peu parfois, mais c'était plus, on va dire, s'il y a d'un coup l'anniversaire de ma meilleure amie que je vais louper, ok, ça peut me briser un peu le cœur, mais franchement, j'étais tellement à fond dans mon truc que j'étais tellement happée par ce métier et ce rêve que je voulais réaliser et voyager partout, et j'adorais voyager, que ça allait, franchement, je l'ai bien vécu.
Alors, il y a un autre truc qui m'intéresse souvent, c'est, alors en plus, toi, c'est marrant parce que comme on est de la même génération, qu'est-ce que t'écoutais ado? C'était quoi tes petites pépites?
J'ai adoré Usher. Après, je me souviens aussi en train de danser, alors c'était même pas ado, là c'est carrément enfant, 12-13 ans, je sais pas en quelle année elle est sortie, mais Genie in a Bottle de Christina Aguilera. Je me faisais des chorés dans ma chambre. Je me regardais j'avais pas de miroir, mais j'avais la fenêtre qui faisait des reflets suffisants pour me regarder.
Avec le clip sur la plage et tout, là où elle est. Enfin, trop bien. Et tu regardais beaucoup la télé ou pas? En rentrant de cours et
non,
tout?
Non, j'ai jamais trop regardé la télé, non.
Donc pas trop de séries et tout?
Si, j'ai regardé des séries, bien sûr.
Qu'est-ce c'était que... quoi,
mais c'était pas forcément la télé, je crois qu'on avait déjà.
C'était déjà le début.
Ouais, c'était entre les deux. Ah si, ah, par contre, les séries. Oh, j'en ai mangé.
Les trucs de.
Ah, tout, mais tout. Dark Angel. Alors, je te fais la Smallville, Dark Angel, Buffy.
Trilogie
du samedi, voilà. Donc, ouais, ça, c'était classique. À la télé. Et après, plus tard, Gossip Girl. Mais alors, laisse tomber Gossip Girl, comment j'ai tout regardé.
Sex and the City, t'avais pas fait avant?
Sex and the City. Non, c'était si je tombais sur un épisode, j'aimais bien, mais je regardais pas.
T'étais pas,
non? Ouais, non. Non, Gossip Girl, One Tree Hill.
Ah, One Tree Hill, trop bien. Les frères Scott en français.
Les frères Scott. Et après, voilà, ça a continué. Hein, Californication, tous les trucs. Je sais pas si on était encore ado à cette époque-là. Mais...
Californication, ouais, c'était un peu plus tard,
c'était un peu plus tard, ouais. Mais Gossip Girl, là, c'était...
Ah, Gossip Girl, ouais. Ans, même moi, j'ai regardé, je dois l'avouer. C'est terrible, mais j'ai regardé. Et au niveau style, pareil, parce que ça m'intéresse toujours.
Vestimentaire?
Au collège, ouais. Parce que pareil, au collège, c'est ultra important d'être bien, d'avoir la bonne marque, le bon truc.
Alors, j'étais vachement garçon manqué, je dirais, au collège, 6e, 5e. Même, ouais, peut-être presque tout le collège, parce que je me rappelle qu'il y avait une fille en 3e et je la regardais et je la trouvais vachement féminine. Elle avait des boucles d'oreilles, elle avait des pattes d'œufs et tout, une écharpe qu'elle gardait même à l'intérieur. Et je me disais, wow. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! J'aimerais trop être comme elle plus tard. Et c'est comme si je me disais, moi je suis encore un petit garçon donc on verra plus tard.
Ouais. Tu vois, quand je serai une femme, quand même.
Voilà, quand je serai. Voilà, je me sentais pas concernée, j'admirais encore une fois. Et au lycée, par contre, j'avais des requins.
Ah, des requins! Mais ça, les requins, moi je me rappelle que c'était un. Enfin, moi j'étais fou amoureux d'une fille en 6e qui avait des requins, je trouvais ça ultra classe.
Ah bah, tu vois, c'était les filles stylées.
C'était à l'époque, c'était créole, requin et sweet LS.
Ouais, créole, requin, ouais, j'étais ça. Ah, ça moi, j'avais sweet champion.
Ouais, sweet champion. Ça s'est revenu fort, ouais. Et alors, pareil, j'ai, en préparant le podcast, trouvé une histoire qui m'a fait un peu marrer avec un ours en peluche et Benoît Paire, ado. Et donc, ça m'a intrigué. C'est quoi cette histoire, en fait? Vous connaissez avec Benoît Paire?
Oui, je connaissais Benoît des temps de junior. On se connaît depuis qu'on est petit, quoi.
Ouais, c'est trop drôle. Et donc, l'histoire du jour
sans plus. Bon, c'est bon, j'ai répondu à la question, je peux passer à autre chose.
Bien tenté.
Benoît et moi...
Il a toujours été comme ça, déjà, ou il était aussi un peu impulsif et tout?
Ah non, un peu impulsif, pardon.
Un peu canard. Oh putain. Ça, on va développer.
En plus, c'est un peu canard, mignon.
Ouais.
Oui, justement, à cette époque-là, là, je me souviens, cet été-là, il s'était fait suspendre. Il s'était fait suspendre parce qu'il avait été disqualifié dans un match. Et du coup, il avait joué... Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, il y avait le championnat de France 17-18 ans qui s'enchaînait avec le Critérium. Okay. Le Critérium, c'est le championnat de France seconde série. C'était à Roland-Garros. Et en fait, en 17-18 ans, il avait fait n'importe quoi. Il s'était tellement énervé qu'au Critérium, sa ligue, parce qu'on était accompagné par nos ligues à l'époque, lui avait dit « Tu vas jouer tout seul ». Donc il était tout seul, le pauvre. Donc du coup, j'allais regarder ses matchs avec des copains. Et bon, voilà, on a eu notre petit flirt de l'été pendant ce tournoi. Et en fait, à la fin du tournoi, il devait rentrer dans le sud, donc on allait plus se voir. Donc naturellement, on va dire que ça se finissait. Il était tellement mignon que pour clôturer notre bel été, il avait été à la fête foraine et il m'avait dit « Est-ce que tu peux juste me rejoindre à l'arrêt de bus en Saint-Cloud? J'ai gagné un ours en peluche pour toi.
» Trop mignon.
Donc voilà, donc je suis allée, il était énorme, l'ours en peluche. Il prenait toute la place parce que j'habitais encore chez mes parents, oui. Ouais. Donc voilà, j'avais le gros ours en peluche.
Raquel Lover, ce Benoît. Et est-ce que tu sais ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait carrière dans le tennis? Pas du tout.
Naturellement, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait des études parce que ça aurait été là, sous mes yeux, le truc naturel et logique à faire. J'aurais peut-être fait médecine, je pense. Parce que voilà.
C'est ce qui te plaisait, c'est ce qui te plaisait.
En fait, tout me plaisait. J'avais envie de tout faire. Rien ne me déplaisait. J'étais curieuse de tout. Mon père était médecin et mes frères et sœurs n'avaient pas fait ça. J'aurais peut-être fait ça. Après, si j'avais pu choisir, je pense que en revenant plus tôt dans mon enfance, j'aurais sûrement fait du théâtre et de l'acting, ouais, je pense.
Et alors souvent, pour terminer, je fais un truc qui s'appelle le Panthéon personnel. Je devais te demander un livre culte, ton film culte ou ta série culte, enfin les deux d'ailleurs, ton acteur, ton actrice, ta chanson ou ton album, et pourquoi surtout. Donc du coup, ton livre, parce que toi, j'ai l'impression que c'est...
Mon livre culte.
Ton livre culte.
Métaphysique des tubes, Amélie Nothomb.
Waouh, ok. Pourquoi? Et c'est un truc qui t'a marqué?
Oui, déjà, c'est mon livre favori d'elle. Alors, ça aurait été forcément le livre d'elle.
C'est ton,
mon écrivain préféré.
Autrice préférée et ouais. Son livre préféré, ok.
Et ouais, c'est mon livre préféré.
Et qu'est-ce que t'aimes chez elle? Pourquoi?
Tout!
C'est quoi, c'est l'univers, c'est le personnage, c'est...
Non, je sais pas, quand je lis, j'ai l'impression qu'elle me parle. Non, je sais pas, tout est... Je sais pas, c'est... Enfin, je pense qu'il y a des choses qu'on peut pas expliquer.
Ouais.
Voilà, c'est au-dessus d'explication avec les mots. Non, non, j'adore ce livre, c'est son autobiographie de 0 à 3 ans.
De 0 à 3 ans ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle raconte dedans ?
Ça bah, rappelle des trucs. Lire.
Ouais, je l'ai pas lu.
Bah, c'est ça, c'est le côté autofiction où tu sais pas si c'est exactement des souvenirs et ce qu'elle a inventé, mais elle est tellement forte avec sa plume qu'elle peut te mettre à fond dans n'importe quoi. Mais oui, elle part de sa naissance, effectivement, quand elle est bébé, que... Elle dit pas un mot, elle est comme une plante comme ça, et tous ses parents sont désespérés qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne crie pas, qu'elle ne pleure pas, et qu'un jour sa grand-mère est arrivée et lui a donné un bout de chocolat, et que là, elle a appuyé sur le bouton vie, et là, elle s'est mise à vivre et à hurler, à pleurer, à être vivante, et voilà, tout est parti de là.
Ok, bon, écoute, je le dirai, je connaissais pas. Ton film culte ?
Oh, ça a tellement varié au cours des années. J'ai eu Gladiator, Titanic. Ah, incroyable. Titanic, ouais. Je l'ai regardé 850 000 fois. Après, j'étais dans des trucs un peu plus dark, comme j'étais fan de Natalie Portman, Black Swan, je l'ai regardé beaucoup de fois, ouais. Closer. Et récemment, j'ai beaucoup aimé Parasite.
Ah, trop bien. Ouais. Ok, ta série ?
Je sais pas, franchement, j'ai aimé tellement de séries, j'ai tout regardé, Dexter, Grey's Anatomy. Ah si, mais non, qu'est-ce que je raconte ? Game of Thrones, bien sûr.
Game of Thrones,
non,
ouais.
Mais n'importe quoi, moi. J'étais là, je sais qu'il y en a une, mais ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. C'est quoi ? Réfléchis. Game of Thrones.
Vraiment, Game of Thrones.
Vraiment, au-dessus de tout pour moi.
Si t'as un acteur qui te plaît particulièrement plus que tous les autres ?
Leonardo DiCaprio.
Ah ouais, bien sûr, trop fort. Trop fort.
Trop, trop fort.
Et actrice, une actrice que t'adores ?
Actrice, celle... dont j'ai le plus regardé les films, c'est Nathalie Portman.
Ouais.
J'admire beaucoup.
Pareil, très forte. Et alors la chanson, une chanson que t'as le plus écoutée dans ta vie ?
Je sais pas, elles ont toutes fait des périodes en fait, ouais. Les chansons. Je sais pas, non mais tu sais. Ah si, Viva la Vida de Coldplay.
De Coldplay ?
Ouais. Et tout cet album, ouais. Tout cet album-là, ouais. I used to the world, sees it rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I. J'avais vu le concert à Londres et à Paris, et c'était incroyable. On avait des bracelets colorés, il y avait des ballons partout, toutes les couleurs.
Oui, c'était quand ils étaient dans leur période de colorer, parce qu'eux, ils changent tout le temps aussi. Ils sont noirs, tout en noir et blanc, avec des signes genre écosystème. Après, ils se mettent tout en couleurs.
Non, là, c'était la période, wouhou, arc-en-ciel.
Oui, ils étaient violets et tout.
Toutes les couleurs, j'adorais.
Ouais, j'aime bien Coldplay aussi, ils sont sympas. Bah voilà, c'est trop cool.
Trop bien, merci beaucoup.
Non, merci à toi, c'était trop cool. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, et comme d'hab, mettez des petites étoiles si ça vous a plu, comme ça, on sera mieux référencé. On pourra fumer à 168 le podcast de Pablo Mira au classement des podcasts. Chier Pablo! Merci d'avoir écouté Champion. Salut!
It's Owen and Murph here, and we want to talk about the good people at Now who are sponsoring this episode and have some exciting news to tell us about the return of the Formula One season, which kicks off on March 2nd.
Oh, well, this sounds great, but where do I catch all of this high-octane action?
Murph, you can stream all the F1 Sky Sports action without a contract for just €20 a month for 12 months with a Now Sports membership. If Formula One's your game, then Now is the name.
You're really revving my engine, McDevitt.
Ah, pit stop it with all the puns, Murph.
I saw your Be Good Baker running by again the other day, says I to old Mr. Brennan. Ah, yes, says he. I've never seen her stand still. And she's running rings around the rest of us with our Brennan's Be Good bread. Only 60 calories a slice. 60 calories, says I. That's just the whole meal, is it? No, says he. It's the whole meal, the whole grain and the waste. 60 calories a slice and high in fibre, whatever way you slice it. That's why anything baked is better with Brennan's. Today's bread today.